Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors, cette semaine, SmackDown avait lieu le 6 juin à Rochester, je crois dans l'état de New York, si je dis pas de bêtises.
Écoute, c'est ce que j'avais en tête aussi, donc je vais te faire confiance.
Bon, écoute, on va se faire confiance mutuellement. Et au voilà, menu de cet épisode, une danseuse de cabaret veut grimper à l'échelle. Mojo Rawley plaide son cas auprès de Shane McMahon. AJ Styles et Dolph Ziggler en remettent une couche. La Fashion Police n'accepte pas les pots de vin. Et Shinsuke Nakamura se fait tirer le portrait à la gouache. Shane O'Mac, justement, qui ouvre le bal et nous présente pour la deuxième fois, hein, sur les cinq prochaines fois à venir sûrement, les participantes du Money in the Bank Ladder Match, hein, féminin, et qui, surtout, hein, soulève le petit voile et dévoile la mallette des filles. La mallette des filles immaculée, hein, toute blanche, vêtue aux dorures chaudes et au logotype vert de l'art. Une bien belle mallette. Il rappelle ensuite, hein, les enjeux immenses symbolisés par cette mallette. Il est interrompu par James Ellsworth, qui est agacé du paternalisme patriarcal de Shane. Puis c'est la reine Charlotte, hein, qui interrompt la princesse Carmella, lui rappelant sa supériorité génétique, contestée par celle qui fut et sera la meilleure à rien, c'est Natalia. Tamina dit un truc aussi, mais on s'en fout puisqu'elle n'a pas vraiment de personnalité ou de gimmick. Une musique retentit, puisque là nous avions seulement les cinq participantes, mais quelqu'un est un peu mis sur le banc de touche, c'est Naomi. Naomi qui vient pleurnicher parce qu'elle ne sera pas dans le Money in the Bank Ladder Match. Alors elle n'a pas tout compris comment ça fonctionne, hein, Naomi. Tu peux pas tout avoir, ma grande, la ceinture et en plus être dans le Money in the Bank Ladder Match. Soudain, une autre musique familière retentit. Cette musique, elle est familière. Mais pourquoi ? Parce que ça fait des mois qu'on nous bassine avec un trailer. Et oui, on nous annonce l'arrivée de Lana à SmackDown. Et ça y est, on y est. Lana, la danseuse de cabaret, acclamée et populaire, plus que ce que ne pensaient probablement les bookers, face à une Naomi Hillar, hein, et Becky Lynch et Charlotte, un petit peu en mode prétentieuse, à qui prennent le thé pendant que Lana vient défendre un petit peu sa place. Elle veut également participer, elle veut en être, hein, elle veut en être dans le Money in the Bank Ladder Match. Lana, hein, que le public encourage, elle est toujours aussi populaire. Shane rappelle cependant qu'une opportunité, ça se mérite. On ne vient pas comme ça réclamer une place dans un Money in the Bank Ladder Match. Ça se discute probablement. La Russe fuit alors en gênant, elle n'est pas contente. On enchaîne du coup avec visiblement un soi-disant attendu match 3v3 féminin. Ça tombe bien, hein, puisque les participantes à ce match sont déjà dans le ring. Alors, le 3v3 commence. Becky Lynch qui fait des pitreries avec Carmella, elle le place dans une espèce de ciseau et puis après elle le fait tourner tout autour du ring, enfin dans le ring. La publicité, hein, punitive dont on parle souvent s'abat sur le match. Et du coup, bah, effectivement, les heels reprennent l'avantage puisque l'Irlandaise est malmenée par le trio de méchantes. Naomi sauve la mise, hein, c'est elle qui prend le tag et déroule alors son arsenal, hein, pour nous rappeler ce qu'elle sait faire. Mais l'intérêt du public est rapidement ailleurs car en effet, Lana est revenue. Quelle surprise! Elle est revenue alors sans trop courir parce qu'elle est dans une robe... tout à fait saillante, hein, une robe de soirée. Elle fait chuter la championne qui se mange ensuite un gros kick qui sera fatal de Tamina. On book Tamina pour le Money in the Bank. On découvre d'ailleurs le theme song en entier de Tamina puisque les victorieuses méchantes repartent là-dessus. Plus tard, après donc cette défaite, hein, Naomi obtient, et c'est étrange, obtient un match de championnat face à Lana à Money in the Bank, parce qu'elle a été un petit peu, sa fierté en a pris un coup, son ego en a pris un coup, et elle book donc un title shot pour Lana, qui n'en désirait probablement pas autant. C'est ainsi que se termine à la fois l'opener, mais également donc tout le segment entièrement dédié à la division féminine. Giscal, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Ouais, en effet, tu l'as dit, elle s'en sort très très bien, Lana, dans cette histoire. Elle se retrouve, elle voulait un shot dans le Money in the Bank, elle se retrouve avec carrément un match pour le titre. C'était ni fantastique ni catastrophique, c'était passable, j'ai trouvé cette semaine. Petit carton rouge à, c'est vrai, on avait mentionné, c'était plutôt appréciable la semaine dernière de voir que on évitait à SmackDown, enfin, on laissait finalement les filles nous intéresser par leur simple interaction à ce match et à la dimension historique du truc, plutôt que de nous asséner que c'est historique à grands coups de mise en scène et de rappel et compagnie. C'est vrai que tout le tintouin de Shane, qui ne peut pas s'empêcher d'être toujours au centre des discussions, au début de l'émission, était peut-être un poil too much. On aurait pu s'en passer. Au-delà de ça, c'était quand même sympa, voilà, de dévoiler cette nouvelle mallette qui n'est pas rose fluo, c'est bon. Ouf. On l'a échappé belle.
C'était le pire qui pouvait se passer.
qui est magnifique cette mallette. Écoute, voilà, elles n'avaient pas grand-chose à se dire en intro. Le segment était passable. On est, je pense, comme tu l'as dit, parti pour plusieurs semaines jusqu'à Money in the Bank à nous rabâcher le nom des participantes, la mallette, les machins. On va bien comprendre. J'ai trouvé très drôle quand même l'intervention de James Ellsworth au tout début, genre qui est en train de dire à Shane, non mais attends, c'est pas parce que c'est les meufs qu'il faut rappeler les règles du Money in the Bank comme si on avait 4 ans. C'est bon, tout le monde connaît. C'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt vrai,
oui.
c'est bon, on va peut-être pas prendre 10 minutes pour rappeler les règles d'un match qu'on connaît depuis 10 ans, donc ça va.
Merci James, la voix du peuple.
J'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé que Shane, voilà, on pouvait poser. Après, l'arrivée de Lana est plutôt marrante, j'ai bien aimé sa musique d'entrée, c'est catchy, c'est entraînant, elle est absolument sublime, sublime dans sa robe, le public la trouve, enfin, est manifestement toujours à fond sur elle.
Elle a toujours son accent, elle n'a pas perdu son accent russe.
Non, elle n'a toujours pas perdu son accent, donc du coup, peut-être un petit peu à contre-emploi, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent la présenter en tant que heel, mais ça n'a pas l'air de marcher.
C'est ça, ouais. Ce que je disais, le public était à fond derrière elle, et c'est vrai que cette musique catchy, et puis même dans son visage, elle a quelque chose d'assez...
Et puis elle est charismatique, elle est expressive, donc du coup c'est compliqué, et puis en face d'elle, il y a quand même pas beaucoup de répondants, quoi. Naomi a été, je trouve, l'enclume du segment, là, qui a vraiment tiré le truc vers le bas, c'était assez terrible. Championne pas du tout charismatique versus challengeuse super appréciée, les alignements ne fonctionnent pas, c'est un petit peu le point noir de tout ce qu'on peut tirer de ça. Après,
c'est
le match,
match était tout à fait correct. Charlotte n'a pas été vraiment
backlash,
beaucoup impliquée. On a montré voilà Tamina, elles vont tout avoir un petit peu au fur et à mesure des semaines.
Le choix du vainqueur est je pense bien vu, c'est elle qu'on avait le plus besoin.
Ouais.
Mais bon, le seul truc c'est que je suis pas loin de penser que c'était le meilleur match de la soirée, ce qui est pas très bon signe.
Ah oui, quand même.
Bon,
de toute façon, effectivement, on n'aura pas été forcément ultra gâté en catch, en tout cas.
Non, pourtant il y avait du nombre.
Il y avait du nombre, et je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Par rapport à Lana, il y a un petit souci là, entre ce que les bookers avaient l'air d'imaginer et la réaction du public, et cette difficulté pour Naomi de vraiment embarquer les foules autrement que quand elle arrive.
Quand elle simule son faux rire comme ça.
Moi j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien.
Cringe-worthy, comme ils disent. C'était vraiment pas du tout agréable à regarder.
Non, un peu mal à l'aise. Bon, en tout cas, Lana est là, ça y est.
Lana est là.
On n'a pas battu le record de l'annonce de Emma, je pense, mais on en prenait quand même le chemin. On retourne backstage, et donc Lana fait enfin son retour, mais elle n'est pas la seule à faire son retour, puisque Mojo Riley est là, backstage. Après s'être fait bully par des gamins de 8 ans il y a 2 mois, rappelez-vous, il vient réclamer l'attention qu'il mérite auprès de Shane. Il rappelle qu'il est le seul à avoir battu Jinder Mahal depuis son arrivée à SmackDown. Douloureuse vérité pour nous. Une promo poignante d'ailleurs qui fait mouche, puisqu'il plaide vraiment son cas. est le cas d'autres catcheurs, puisque Shane lui dit effectivement tu as raison, et puis là il fait du name dropping et il balance du Luke Harper, du Ty Jellinger, qui sont autant de mecs mis sur la touche, oui. Alors qu'ils sont totalement over auprès du public, pour autant rien n'est prévu pour eux, je vous rassure. Shane,
ne vous inquiétez pas,
vous inquiétez pas, hein.
Shane McMahon, il reste au placard.
Voilà, il reste au placard. Voilà, SmackDown continue dans sa mauvaise gestion de ses jeunes pousses. Shane propose cependant, en guise de l'eau de consolation, au tenant de la statue, là, hein, du trophée André le Géant, il lui propose un deal assez alambiqué, pour ne pas dire complètement con. En fait, si Mojo bat ce soir dans un 1v1 le champion de Jinder Mahal, il aura droit alors de participer au Money in the Bank Ladder Match et donc d'obtenir une mallette pour pouvoir cacher sur le champion éventuellement qui serait toujours Jinder Mahal si tout se passe bien pour l'Indien. Donc le match s'enchaîne, hein, puisque un match qui n'aura pas duré trop longtemps, environ 5 minutes. On se change de grosses patates, hein, dans le ring, il ne se passe rien de très particulier. Jinder donc subit la pression de l'ancien footballeur, hein, qui fait ses tackles, hein, il a vraiment tout un moveset basé sur son passé de footballeur. Il redistribution de mandal. Mojo cherche le soutien du public, hein, mais c'est les doigts dans l'œil de l'Indien qu'il reçoit. Après s'être fait un petit peu malmener, Jinder Mahal finit par pouvoir passer son finisher, le Colosse, hein, je crois que ça s'appelle.
Ouais, le Kalas, je sais pas trop comment il le prononce.
Ouais, voilà, c'est toujours c'est finisher, tu fais attends, c'est coup de gras, Colosse, c'est bizarre, ça. Ouais. J'allais voir comment ça s'écrit. Donc Jinder Mahal, hein, donc victorieux, qui se sort victorieux, hein, lui qui avait une entrée un peu
magnifique.
Oui, en tout cas, on monte en gamme, on va dire, hein, musique un peu remixée, oui. le tapis sur le ring, les voilà toujours escorté évidemment de ces deux sbires qui font vraiment très bien le boulot. D'ailleurs, petite anecdote, les Singh Brothers là. Ils sont allés demander quelques conseils auprès d'un ancien duo très célèbre, tag team très célèbre, puisqu'il s'agit de Edge et Christian. Et oui, ils sont allés toquer à la porte des anciens pour leur demander quelques conseils, et c'était apprécié par Edge et Christian. Donc du coup, voilà, visiblement ils font les choses bien, tout le monde fait les choses bien, Jinder fait les choses bien auprès de Vince, les petits indiens ils font les choses bien auprès des anciens. Voilà, ceci explique sûrement cela. Alors, c'est on a sûr. Évidemment droit à un discours de Jinder, hein, qui annonce donc qu'il va soigner le public de la maladie Randy Orton. Voilà, maladie Orton, c'est une maladie, vous êtes tous malades. Les chants USA qui retentissent, évidemment. Puis il dit ces trucs en punjabi, probablement des grosses conneries. J'aimerais bien qu'un jour on me traduise ce qu'il dit.
Ce serait assez drôle de savoir ce qu'il dit.
Voilà, backstage, un peu plus tard, on a Randy Orton qui rappelle qu'il a eu quelques coups de fil, visiblement, d'anciennes légendes, Ric Flair. Ça me fait marrer, Ric Flair. Oui, effectivement, à mon avis, il est chouette dans les parages, hein, Ric Flair. Et d'autres légendes du même acabit.
Harley Race,
son exactement. Père aussi, apparemment. Son père l'a appelé. Hé, hey, fils, qu'est-ce que tu fous, là, pour un petit peu le remettre sur le droit chemin, lui dire écoute, concentre-toi sur le match, laisse-le parler, là, Jinder. Il fait le malin, et puis c'est dans le catch, c'est entre les cordes que ça doit se régler. Randy Orton donc annonce qu'à Money in the Bank, que les coups parlent plus fort que les mots, et qu'à Money in the Bank, il ne dira rien, et pourtant Dieu sait que Jinder l'entendra. Donc j'ai trouvé une saillie assez plutôt bien bordée. Écoute, Giscard, est-ce que tu es toujours autant ébloui par le charisme débordant de notre champion WWE?
Il illumine l'émission, je trouve. C'est incroyable. Moi, je suis épaté par le travail qu'ils font autour de Jinder Mahal. Je trouve que c'est excellemment bien ficelé. Il a encore une fois, je trouve, vraiment rempli l'écran pas juste de sa présence à lui, mais en tout cas de tous les moyens qu'il met autour de lui pour qu'il irradie l'écran dès qu'il apparaît. Tu ne vois que lui. C'est là où tu te dis quand même que, c'est ce que je mettais un peu sur le forum quand on discutait de Jinder Mahal, quand t'as la machine derrière toi, quand t'as les rouages de la WWE qui se mettent en place derrière toi pour te pousser, et que on met les petits plats dans les grands pour ton entrée, pour ta musique, pour ton entourage, pour ton apparence, même quand il avec un petit costard bien taillé, c'est plein de petites choses qui font que n'importe qui peut devenir du jour au lendemain une méga star.
Oui, vraiment, même toi auditeur qui nous écoute.
Même toi, jeune auditeur fringant qui aspire aux plus hautes sphères du catch. Non, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est assez exceptionnel parce que c'est la preuve que en deux mois, on peut passer d'un jobber no name à... Moi, je suis désolé, aujourd'hui, Jindermal, c'est une top star à la WWE. Il est dans le haut du panier. Il est montré tel quel, et il se comporte tel quel, et il agit tel quel, c'est une top star actuellement, et je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font avec lui, voilà, moi je trouve que cette nouvelle entrée est absolument sublime, ce qu'ils ont fait avec le tapis qui déroule sur la rampe, cette nouvelle rampe maintenant interactive là qu'ils ont, ce remix un peu de rap bollywoodien là, qui colle bien au personnage, donc tout ça fonctionne très bien, et de l'autre côté je continue à trouver la partition de Randy Orton assez intéressante.
Elle a évolué un petit peu, la partition de
Randy Orton. Ouais, elle a un peu évolué. Je trouve que Randy Orton il est plus attachant quand il fait ce face un peu badass qui colle beaucoup plus à sa personnalité, parce qu'en fait on l'imagine beaucoup plus être finalement ce mi-respect des anciens, parce qu'il se sent, je pense, plus proche de l'ancienne génération que de la nouvelle, et en même temps un peu sale gosse, tu vois, c'est vraiment il est un peu énervant pour ça, Randy Orton, parce que c'est third generation superstar, il a un palmarès long comme le bras, on est en droit de se demander s'il mérite ses 13 titres. Enfin, et quand il en joue un petit peu comme ça, et qu'il est un peu sale gosse sur les bords, et ouais, qu'il dit que c'est un scandale qu'il ait perdu contre Jinder Mahal, et là il est en train de se faire un petit peu brosser le dos par les légendes et tout, et qu'il va regagner son truc facilement, je trouve que il est mieux dans ce côté badass là que quand il essaye de faire un peu le cabotin comme il peut faire parfois, juste on n'y croit pas, tu vois. Ça par contre, on y croit parce qu'on se dit, ouais, Randy Orton, il est probablement comme ça dans la vraie vie, tu vois,
il a probablement reçu les coups de fil.
Oui, quoi. Exactement. Donc, je trouve que ça marche pas trop mal, et l'opposition de style est, moi, personnellement, m'intéresse. Je trouve que les échanges à distance sont pas trop mal. Et un dernier mot pour conclure sur le segment, parce que t'en as parlé, ouais. Mojo Rawley, c'est l'archétype du segment où j'aimerais qu'ils en fassent plus, des segments comme ça, mais en même temps, j'aimerais qu'ils les écrivent mieux aussi, ouais. Parce que c'est à la fois très sympa et très casse-gueule, parce qu'en fait je trouve que c'est la vie des coulisses. Enfin, tu sais, je trouve que vraiment c'est intéressant de voir ça. Mojo Rawley, il est gagnant de la bataille André le Géant, et ça fait deux mois qu'on le voit plus, et t'avais envie d'être derrière lui, tu vois. Il y avait un vrai coup de gueule de sa part, mais en même temps très respectueux. Je trouve que ça collait bien à son personnage. Ouais. Dit, bah écoutez, moi je veux juste une chance, machin, je comprends pas et tout. Et à côté de ça, c'est très maladroit parce que Shane McMahon, il est là, il dit, bah ouais, écoute, ouais, mais tu sais, t'es dans le même bateau que Luke Harper, Ty Dillinger, et bah oui, justement, ils sont où?
Ils font un aveu là en direct face à nous, oui, ils avouent leur méfait.
Ouais, donc en fait, on est dans la lignée de Shinsuke Nakamura qui est propulsé en pay-per-view, Lana qui prend des title shots dès qu'elle arrive, Charlotte qui prend des title shots dès qu'elle arrive, et à côté de ça, t'as des mecs, en effet, tu te demandes ce qu'ils font, quoi. Donc c'est à la fois intéressant et dangereux. Je préfère retenir le côté intéressant parce que ça ajoute du côté un peu du côté un peu réaliste au segment backstage. Mais bon, Shane McMahon, c'est toujours la même chose, quoi. Il souffle le chaud et le froid sur les segments, c'est un peu un peu le problème, quoi.
Alors écoute, sur ce segment-là, comme je dis, hein, je te rejoins, c'est moi aussi j'adore quand ils font ce genre de segment parce que c'est en adéquation aussi avec cette nouvelle façon de communiquer et de dévoiler un petit peu l'envers du décor, hein, qu'ils mettent en avant. Tu vas sur le network, tu te gaves de ce genre de segment où tu vois Triple H qui verse une petite larme parce qu'il vient de comprendre que Finn Balor va devoir rendre son titre,
c'est des,
etc.
C'est des choses comme ça.
Où tu vois que les catcheurs, se battent dur. Ouais, non, mais toi, tu vois vraiment le côté très humain et parfois cruel du monde. Du
c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais.
Donc c'est très intéressant, mais comme tu le dis, le problème c'est que ça vient percuter, on va dire, le côté mise en scène, enfin le côté comédie, mise en scène de l'autorité, des décisions qui sont totalement...
Et c'est pas en adéquation avec le positionnement qu'il devrait avoir, en fait.
C'est ça. D'avoir ce segment-là d'un côté, et d'avoir après le title shot de Lana, quand bien même c'est Naomi qui l'a réclamé, donc à la limite, toi, ça pourrait toujours se justifier, mais on peut en trouver plein d'autres, des moments comme ça.
Oui, oui.
Enfin, c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi, un petit peu. C'est, Donc, c'est assez compliqué, effectivement. J'ose espérer qu'un jour, ils retrouveront cet équilibre qu'ils avaient à un moment donné, probablement après le shake-up, où justement, ils arrivaient à la fois à mettre en scène cette volonté, même avant le shake-up, hein, le brand split, où tu avais vraiment une guerre entre les rosters, mais tu sentais que aussi backstage, ça se passait aussi backstage et que tout le monde était impliqué. Et ça se ressentait à l'écran, du coup, toi, ce qui se passait backstage, on sentait que les deux étaient vraiment liés. Là, on nous fait ce genre de petite scénette, on se doute que backstage, il y a ce genre d'histoire, et que Mojo dit ça, et c'est pour ça que cette promo était vraiment superbe, parce que c'est 99%. Enfin, il a juste mis la petite intonation, enfin, juste un peu bougé, voilà, son corps pour que ça reste de la comédie, mais ce qu'il a dit, il le ressentait vraiment, et nous, on le ressentait.
C'est probable,
aussi.
Ouais.
Mais voilà, réussir à retrouver cet équilibre, ce lien entre ce qui se passe backstage, ce qu'on sent, ce qui se passe vraiment, et ce qui se passe à l'écran. Et ça, ils l'ont pu, et ils sont en train de ils l'ont perdu au fur et à mesure des mois, et le shake-up n'a pas trop aidé, en fait, ça a un petit peu mis un coup de semences à tout ça, et je pense que Shane McMahon en aussi est un peu fatigué de jouer les Monsieur Loyal là, et
tu sens que peut-être que le franc-parler et les petites interventions de Daniel Bryan lui manquent un peu en coulisses pour
on peut plus trop s'appuyer sur les Talking Smack aussi pour avoir
exactement qui permettent aussi de lâcher un peu les chevaux sur certains segments micro.
Il y a toujours
tout,
des choses, hein, j'ai pas regardé suite cette semaine, mais il se passe toujours très intéressant à Talking Smack, mais à l'époque où il y avait Daniel Bryan, il y avait vraiment une réelle connexion. Elle n'est pas complètement coupée, mais tout ça était logique et on se sentait impliqué vraiment dans beaucoup de comment dire, dans les sorts de beaucoup de catcheurs et de catcheuses.
Ouais, tout à fait.
Bon, voilà, c'était un peu une digression, mais voilà. Non, mais c'est bien, c'est des petits symptômes
ça
comme ça qui
parler,
ressortent un petit peu. Et j'espère, du coup, effectivement, qu'on reverra Ty Dillinger et Luke Harper, un de ces quatre.
Ben ouais, tu vois.
C'est des jeunes pousses et ils savent pas.
Et puis qui peuvent être over, hein, vis-à-vis du. Enfin, c'est vrai qu'on
le
comprend
déjà
pas trop pourquoi ils sont écartés. Hein. Ouais.
Ils le sont déjà. Et bon. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec deux gars qui sont très over. Un qui l'a toujours été et un qui le redevient, mais on sait pas trop, c'est pareil si les bookers avaient prévu le coup ou pas. Bref, AJ Styles affronte Dolph Ziggler pour la revanche. Hein, puisque Ziggler a battu la semaine dernière AJ Styles, le Phenomenal One. Du coup, AJ ne veut pas se faire avoir deux fois. Les deux s'annihilent rapidement au sol, hein, avant de prendre un peu de hauteur. Ça va vite, très vite. Hein. Tentative de tomber s'enchaîne. On sent que les deux sont un peu... AJ veut vraiment pas se faire avoir une deuxième fois. Et Dolph Ziggler, lui, au contraire, veut montrer que c'est bon. Il a repris le dessus sur le roster. Du coup, Ziggler, il use de quelques filouteries pour justement valider cette victoire de la semaine dernière. Mais AJ Styles et l'arbitre restent vigilants. Styles qui nous refait la fin du phénoménal arme là où il amorce son saut comme il avait fait face à Randy Orton, si je me souviens bien.
Très sympa, ouais, absolument.
Donc ça marche toujours bien. Mais ce n'est pas une feinte de Styles Clash que va se prendre Dolph Ziggler, c'est un vrai Styles Clash. 1, 2, 3, victoire de AJ Styles dans un match assez court, il me semble, pas plus de 10 minutes, je crois.
7 minutes.
Voilà.
Ouais, 7 minutes.
Donc on a rapidement remis les compteurs un partout, balle au centre. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ouais, bah c'est ça. Hein. Le match était là pour remettre l'église au milieu du village. AJ Styles devait récupérer cette victoire. Match beaucoup moins sympa que celui de la semaine dernière. voilà, qui n'avait pas d'autre but que de faire ce booking que certains n'aiment pas toujours, hein, booking un peu 50-50 sur les victoires, les défaites. Bon, c'est la Money in the Bank season, il va falloir que tout le monde garde un petit peu de momentum. Je trouve pas que de donner des victoires et dans un sens dans l'autre d'une semaine à l'autre contribue spécialement à donner du momentum à des catcheurs, c'est pas ce que je préfère. Bon, voilà, c'est
est-ce qu'il faudrait pas mieux plutôt faire ces bookings 50-50 dans le cadre de la route ou Money in the Bank? Est-ce que tu préfères pas quand ils font plutôt un jeu de pierre feuille ciseaux, c'est-à-dire vraiment avoir des matchs un peu croisés où certains, voilà, des catcheurs ont le dessus sur d'autres, mais
Ah bah moi je préfère personnellement quand les catcheurs qui vont s'affronter en pay-per-view ne se croisent pas 10 fois les semaines avant,
oui,
le pay-per-view.
Aussi,
on pourrait imaginer AJ Styles aller se venger en torchant un heel de bas étage, tandis que Dolph Ziggler pourrait battre Ty Dillinger dans un match sympa, tu vois, par exemple. Ça pourrait, moi personnellement, je préférerais plutôt que de voir ces chassés croisés incessants qui, je pense, dans les prochaines semaines, et ce sera aussi le cas pour les filles, vont se conclure dans des victoires à toi, à moi, qui n'apportent au final pas grand chose, quoi.
Bon, on le disait, hein, en termes de catch cette semaine, c'est pas la folie, malheureusement.
Non.
Pourtant, beaucoup d'affiches font saliver, hein, mais...
Oui, sur le papier, oui.
On verra d'ailleurs celle du main event, qui pour moi est vraiment... Enfin, on sacrifie beaucoup de choses.
Oui.
Ça, c'est pareil, quelque chose sur lequel SmackDown doit retravailler. Écoute, on revient à ce qui, au moins, est une constante toutes les semaines, un bon moment à passer, puisque les Fashion Files sont de retour dans une nouvelle ambiance noire. À nouveau, on est un peu toujours dans cette ambiance noire, alors que visuellement, on ne voit plus Giscal. Une nouvelle enquête, hein, qui s'ouvre,
oui.
Dans les bureaux de la Fashion Police. Ils sont rejoints par les New Day, puisque la Fashion Police donc, était toujours sur cette enquête d'autres colonnes, des Colons. Donc on a beaucoup de jeux de mots là-dessus, évidemment, avec toujours un tableau rempli de preuves. C'est toujours marrant. Cherchez sur Twitter, on trouve des fois des captures d'écran assez sympas. Les New Day qui sont venus auprès de la Fashion Police pour en savoir un peu plus sur leur futur opposant, les Ouzo. D'ailleurs, il leur demande écoutez les gars, est-ce que vous pouvez... Voilà, Giscal, tu es de retour sur notre antenne.
Je suis navré pour ceux qui suivent le live.
Pas de problème. J'étais en train de raconter tout simplement. Hein, c'est tout simple.
Mais mes chouchous en plus.
Voilà, les New Day qui viennent réclamer des informations auprès de la Fashion Police parce qu'ils ont des infos sur leurs futurs adversaires. Ils leur proposent d'ailleurs, ils leur filent. Alors c'est très drôle puisque les New Day entrent dans le bureau, ils passent en noir et blanc. Et du coup, ils disent ah, mais nous on est noir, vous êtes blanc. Bon, voilà, puis ils se regardent. Et puis en plus, il y avait tout un jeu où en fait, ils communiquent par la pensée, hein, la Fashion Police et leurs pensées se croisent et quand ils posaient des questions au New Day, les autres ne répondaient pas parce que ils n'ont pas le pouvoir de télépathie. Ils disent ah, c'est peut-être pour ça qu'ils communiquent en clapant des mains. C'était très drôle, mais New Day gagne New Case et du coup voilà. Alors, au début, ils sont un peu réticents à l'idée d'accepter les cadeaux offerts, hein, c'est des manteaux, enfin ouais, des fringues, hein, puisqu'ils n'acceptent pas les pots de vin.
Mange pas de ce pain là.
Voilà, mais visiblement ça plaît à Tyler Breeze, alors ok, on passe et du coup ils leur filent toutes les infos qu'ils ont sur les Ouzo et on enchaîne donc sur le match New Day versus Haute Colonne, Biggie et Xavier Wood, hein, qui se chargent des pitreries, qui distribuent des fessées, hein, synchronisées comme ça là, sur les pauvres portoricains. Wood se mange d'ailleurs une énorme corde, que je dis une corde, c'est pas une corde à linge, hein, c'est une corde du ring pendant la pub. Il nous a fait une Enzo Amore là, un petit peu, hein, il était un peu sonné, mais les New Day, hein, sont trop forts malgré la résistance, hein, des portoricains, et gagne toujours à la fin. Évidemment, ce n'est pas du goût des Ouzo, venus les chauffer à nouveau. Hein. Ça clash à tour de rôle sur leur coiffure, leur tour de poitrine, leurs chaussures, leur chaîne YouTube. Ça, mon gars, c'est pas de la paranoïa, c'est les Ouza. Ainsi se termine. Je comprends pas pourquoi, en fait, ça rime pas leur truc. Du coup, hein, je l'ai fait rimer. Qu'as-tu pensé de tout ce. Voilà, de la division tag team, là, ce segment. On a eu du match, on a eu de la promo, on a eu de la comédie. Est-ce que ça tient toujours?
Oh, fais chier.
Je t'entends, là, Giscal, c'est pas grave.
C'est dingue, ça.
Dis-nous ce que tu as sur le cœur. Alors, je reprends. Voilà, je rouvre la porte à Giscal qui était parti faire pipi. Voilà, alors Giscal, qu'as-tu pensé de cette division tactique ? Dis-nous tout
compliqué,
avant que tu sois nouveau censuré. C'est la censure.
Avant que ça se couvre encore, je suis
pourtant,
navré.
Pourtant, tu dis du bien de Jinder Mahal, donc je comprends pas, c'est moi qu'on devrait censurer.
Mais je pense que peut-être que c'est ça, je pense que les auditeurs se liguent sur mon réseau pour me faire taire. le match, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. Bon, peut-être un petit peu too much de comédie à mon goût. Je pense que Fandango et Tyler Bray suffisent pour la dimension comédie dans les matchs tag team. Je pense que même si les New Day sont habitués à nous faire rire, j'aurais préféré un catch un peu plus sérieux. Le match n'avait pas grand intérêt. Par contre, ce qui avait un gros intérêt cette semaine, et comme chaque semaine, c'était ruez-vous sur les Fashion Files, parce que c'est juste incroyable.
Là, ils ont vraiment fait durer le truc. En plus, là il faut vraiment aimer, parce que
Moi j'étais mort de rire. Les Fashion Files, donc noirs, hein, c'est leur dernière itération, on va dire, d'enquêteurs. Là, je trouve que c'est leur meilleur. Donc c'était trop drôle le fait qu'ils disent qu'ils auraient bien aimé enquêter sur ce qui se passe sur Enzo Encas, mais c'est hors de leur juridiction.
Oui,
donc
ils peuvent pas. D'accord, ils ont dit ça j'ai pas capté.
Il y avait tellement de trucs, c'était encore une fois trop drôle. Et puis avec le New Day, donc ils sont en noir et blanc. T'as des petites photos, tu regardes les petites photos sur leur tableau en liège derrière, t'as Michael Hayes qui est réputé pour être quand même un énorme beauf aux cheveux bouclés de mauvais goût. T'as Michael Hayes avec en sous-titre en dessous Repeat Offender, donc c'est un récidiviste, merci, exactement. Il y a trop de petits trucs à chaque fois, tout le temps en arrière-plan.
Si vous aimez vraiment le catch et les coulisses et le fait de jouer avec les codes, c'est exactement ce qu'ils font en fait.
Qu'est-ce que c'est drôle.
De la télé, du catch, c'est super.
Et leur télépathie, et puis à un moment, t'as Fandango qui dit à Biggie, écoute Biggie, si c'est seulement ta vraie initiale, je sais pas quoi. À chaque fois, il y a toujours plein de petites phrases et tout, c'est vraiment trop drôle, donc je me suis éclaté, j'espère que ça continuera pendant longtemps, et qu'ils seront champions, un de ces quatre, parce qu'ils me font tellement rire.
Je crois que tu viens de spoiler ton top comme de la semaine.
Ouais.
Quoique, il y a peut-être, ce sera la dernière chose dont on parlera qui sera peut-être ton top. Écoute, moi je te rejoins totalement, là-dessus pour moi c'est un plaisir et il s'éclate tellement. Et là voilà, on se souvient tous, la semaine dernière je n'étais pas très content du retour des New Day parce que j'avais pas trop envie de les voir. Mais là j'avoue que cette petite connexion avec nos chouchous du moment a vraiment bien fonctionné. Visiblement ils sont pas mis à l'écart. Je m'inquiétais pas trop non plus, mais ils ont réussi à trouver une bonne interaction qui fait que c'était sympa et tout ça s'imbriquait plutôt bien. On retrouve un peu cette interaction entre toutes les équipes, puisque du coup il y avait les Collins qui étaient là, qui étaient l'ancienne enquête, plus les Ouzo qui arrivent derrière, qui sont les prétendants. On commence à retrouver un tout dans la division tag team. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est grâce au New Day, mais j'ai plus envie de dire que c'est grâce à la Fashion Police.
Grâce à la Fashion Police,
évidemment.
Ils connectent tout.
Disons-le, évidemment. Ils connectent comme sur les tableaux
d'enquête. Ils enquêtent.
Tac, tac, tac. Donc, merci à eux. On enchaîne avec notre main event de ce soir. Alors, pêle-mêle, il y a eu plein de petites choses autour du match. On a notamment eu une vidéo terrible sur Shinsuke Nakamura avec une artiste, de Tumblr, en train de peindre un tableau dégueulasse de Shinsuke Nakamura. Donc, on remet. Alors, si vous n'avez pas compris que Shinsuke Nakamura
est un artiste, ouais.
Là, on vous l'a bien mis. C'est pas juste une image, c'est vraiment, regardez, il y a un tableau et il y a un dessin. Alors, c'est pas lui qui l'a peint, mais il pourrait être en train de se peindre. Bientôt, on va le voir en train de se peindre. Hein. C'est la prochaine étape. Autoportrait de Shinsuke Nakamura by himself. Terrible, terrible, terrible. On enchaîne. Backstage, Sami Zayn. À vous avoir maté les vidéos de ses futurs opposants, Money in the Bank. Mais il a toujours du mal à cerner justement Shinsuke Nakamura. Ça me fait marrer parce qu'ils ont quand même une bonne rivalité à NXT. Mais bon, toujours est-il que. D'ailleurs, c'était probablement un des meilleurs matchs de Shinsuke Nakamura so far. Alors, c'est pourquoi il va commenter ce soir, Sami Zayn, prévu comme commentateur, mais ce n'est pas du goût du baron qui s'empare du micro de l'intervieweuse, mais c'est pas pour poser une question, c'est pour lui péter la gueule. il va chercher une échelle et il le tabasse. Le baron qui visiblement le matériel de la régie, je pense qu'il doit Je sais pas, il doit avoir des copains à la régie, les mecs qui montent, ouais, qui chargent les camions, ouais, et tout, parce qu'il a toujours accès à des transpalettes, là, les échelles. Bon, bah, les échelles, visiblement, on en trouve assez facilement à l'approche de Money in the Bank, ça se tient. Et du coup, bah, c'est le baron qui va prendre la place. C'est très drôle, il a dit, bah, j'ai l'impression qu'une place vient de se libérer, une place de commentateur. On enchaîne sur le match, justement, qui est Kevin Owens versus Nakamura. Je vous parlais, hein, d'une affiche... une superbe affiche, quoi, hein, digne d'un pay-per-view, mais voilà, entre guillemets, sacrifié pour le bien du weekly. Nakamura, donc, qui place plus de coups en 3 minutes qu'il n'en a placé en 3 semaines. Kevin Owens, lui aussi, a regardé les VHS, hein, visiblement, il a compris comment fonctionne le japonais, puisqu'il parvient à calmer ses ardeurs, pour un temps, tout du moins. Nakamura a enfin remis les bonnes baskets, il a retrouvé ses chaussures, celles qui lui permettent de mettre des coups, en fait, des coups de pied. Donc, il enchaîne comme ça les coups de pied dans le bidon du Canadien, qui réplique par un cannonball, qui est moqué par le baron. Je crois qu'il le compare à un marshmallow, je sais pas trop quoi. Enfin, il se moque du cannonball et du coup de la physionomie, du physique du champion US, rappelons-le. Entre-temps, Nakamura a placé son exploder. Il arme son Kinshasa qui fera mouche. 1, 2, 3, victoire du japonais et célébration écourtée par le End of Days du baron. Qui donc est celui qui repart victorieux de cet épisode. On sait à quel point c'est important celui sur lequel le show se termine, l'épisode se termine à l'approche d'un Money in the Bank. Et ben là, c'est le baron qui, sans avoir catché, a réussi à être celui qui a fermé le bal. Qu'as-tu pensé du main event et de tout ce qui s'est passé autour?
Alors,
Shinsuke, Kevin Owens.
J'aime bien moi les interactions du baron en coulisses toujours. Je trouve que c'est marrant d'avoir ce personnage qui, tu sais, c'est vraiment le pur bully par excellence. Ah, quoi, oui. T'as l'impression que quand il a pris un mec en grippe, il va lui péter la gueule non-stop. Il va jamais le lâcher. Et c'est trop drôle, il avait fait pareil avec Kalisto à l'époque.
Ce qui avait donné lieu au meilleur match.
Et au meilleur chairs match
de l'histoire, quand même.
Donc, ce qui est plutôt positif. Hein. Et là, maintenant, c'est pareil, c'est Sami Zayn, son souffre-douleur. Je trouve ça toujours assez drôle. Donc, du coup, je trouvais que c'était plutôt bien, ça, les interactions entre les deux. Le match, je l'ai trouvé vachement décevant. Ouais. C'était, je trouve, peut-être un des plus mauvais main event de SmackDown qu'on ait eu, parce que généralement SmackDown arrive toujours à se rattraper sur le main event pour nous proposer quand même un match dans la soirée qui vaut le détour quand même, qui vaut au moins 10-12 minutes de notre temps. Là, franchement, vous pouvez vous en dispenser, c'était ultra mou et surtout c'était une affiche inédite qu'ils ont encore une fois galvaudé de manière incompréhensible, je trouve. Kevin Owens a été quand même pin par Nakamura pour la troisième fois en 4 semaines, je crois. Ouais. Ça fait beaucoup. Sans spécialement qu'il y ait plus de conséquences à cela, en plus.
Il y a une ceinture autour des hanches de Kevin Owens.
Ouais, on a l'impression qu'elle a été mise en stand-by là, du fait qu'il y ait Money in the Bank. Donc, je sais pas, ça clique pas, ça colle pas pour moi, tout ça. Le match est très mou et j'en veux à Nakamura parce que moi je le connais pas, donc Kevin Owens, je sais qu'il peut faire 10 000 fois mieux que ça. Nakamura, par contre, j'en sais rien, et pour le moment, depuis qu'il est là, il fait que des matchs comme ça, depuis que je le vois, moi, donc je suis très déçu de ce match. J'ai trouvé, encore une fois, très très, très mou, très très peu concerné dans l'intensité. Donc voilà, c'est un mauvais main event, et ça, en tout cas, ce match-là, personnellement, n'a rien fait pour moi dans l'optique de Money in the Bank, en termes de hype.
Ouais, c'est ça. Effectivement, comme tu le dis, là, ça fait trois fois qu'on sacrifie Kevin Owens pour Shinsuke. Ce qui est assez étrange, parce que comme tu le dis, il n'y a pas d'emphase particulièrement mise dans ces matchs. Il n'y a pas d'enjeu autant émotionnel que par exemple un title shot. Enfin, tu vois.
Ouais.
Donc on se dit, ok, on en est encore à... C'est Kevin Owens, parce que c'est un heel, et parce qu'il a la ceinture, il peut se permettre de perdre, c'est pas très grave, il a toujours ça, et du coup... Enfin, ça va un peu ça, toi, ça traduit un peu une espèce de ficelle trop usée par les bookers de facilité, où on cherche pas plus loin que pas forcément ce qui fonctionne, parce que ça ne fonctionne plus trop, la preuve, hein, on n'a pas du tout. Moi, je suis comme toi, hein, j'ai pas apprécié le match. Parce que déjà, de base, je me suis dit, oula, ce main event-là, ça balancé comme ça, une fois... ça va être torché, toi, y a pas d'emphase émotionnelle. Enfin, j'étais pas du tout dedans. J'en étais même quasi, j'en suis quand même presque aujourd'hui à compter le nombre de coups de pied que met Nakamura pour voir s'il s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? S'il en propose plus qu'à la semaine précédente, c'est terrible. Là, j'ai eu l'impression qu'il en avait fait un peu plus. J'en suis pas sûr parce que je t'avoue que j'ai pas vraiment compté les coups de pied. voilà, il était un peu moins dans une position de mec qui subit et qui à la fin fait ses 5 Move of Doom, ou ses 2 Move of Doom plutôt. Mais on n'était pas trop loin. C'est juste que voilà, le match vraiment n'avait aucun intérêt, aucun enjeu et aucun enjeu émotionnel, etc. Mais ouais, c'est une fois de plus, voilà, on sacrifie vraiment des belles affiches, des belles affiches pour un pay-per-view qui se vend de lui-même. Enfin, les mecs montreront, on n'a pas besoin de les faire s'annuler mutuellement pour se dire, ah, les mecs, ils ont tous leur chance. Il suffit de montrer que c'est les 6 types les plus forts à l'heure actuelle dans le roster.
Oui, c'est ça.
Et pas forcément besoin de les faire s'affronter entre les cordes à chaque fois, toi. Ils peuvent nous faire des pures promos, nous faire des interactions de dingue, se croiser, faire du mind game en allant, en intervenant dans les matchs. Enfin, toi, c'est bien de pas abuser des interventions, mais il faut aussi le faire parce que dans les Money in the Bank, c'est important de montrer que toi, tu peux à tout moment faire chier un mec parce que ça va être ça le Money in the Bank aussi. Tu viens faire chier des gars que c'est de grimper à l'échelle. Là, on a balancé 2 matchs avec les
sans intérêt particulier.
C'est dur, même.
Ouais. Et puis, en plus, tu le dis, c'est exactement ça. Normalement, l'objectif, c'est de montrer que ce sont les 6 mecs les plus dominants du roster, puisque une nouvelle fois, la WWE a souhaité se dispenser de matchs de qualification pour ce. Donc, exact. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le line-up, rien ne justifie, et c'est pour ça que j'ai trouvé en plus le segment d'autant plus appréciable de Mojo Rawley, rien ne justifie que des mecs comme Luke Harper, comme Mojo Rawley, soient laissés pour compte dans cette affaire, puisque les mecs ont été piochés dans un chapeau pour participer à ce match-là, et en plus, il n'y en a aucun qui semble... particulièrement dominant puisqu'ils se battent chacun à leur tour chaque semaine.
Exactement.
Donc qu'est-ce qui fait que ces mecs-là sont légitimes? On sait pas trop. Donc c'est
que dalle, à part c'est comme ça et puis c'est tout, hein. Ta gueule, c'est magique, ouais. Comme on dit.
Voilà.
Mais tu as raison, et ça avec Ringside, je me souviens parce qu'on avait fait, je crois, le SmackDown avec Ringside qui lançait la Road, et oui, c'est ça. Et enfin bref, c'est une construction à l'envers. On nous annonçait d'abord les participants. Et après, bah, normalement, il faire monter la sauce, quoi, et montrer que ces 6 mecs-là, ils sont légitimes, toi. Au-delà de, effectivement, en tant que suiveur, on sait que c'est quand même des mecs qui sont amenés à truster à un moment donné le main event, toi. Ça coule, plus que Mojo Rawley ou Taiji Ninja.
Oui, évidemment.
Mais il faut nous le raconter, ça. Il faut nous le raconter. Et ça, bah, comme tu l'as bien dit, on ne nous le raconte pas. Au contraire, on nous montre que bah, c'est des mecs qui gagnent, qui perdent. Un jour, qui perd de l'autre. Mais ça, tout le monde. Tous les catcheurs gagnent un jour et perdent un autre. À part les mecs qui sont vraiment au fond, les jobbers, quoi. Mais même les low-carders ou les mid-carders gagnent un jour et perdent un autre. Donc, ils ont fait le mauvais choix. Il aurait mieux fallu qu'effectivement, ils se donnent la peine de construire des matchs de qualif. Pas besoin de faire forcément un tournoi, mais au moins des 1 contre 1 avec tout le roster disponible. Et puis tu faisais briller, tu en profitais pour faire briller des mecs comme Tag Dillinger sans les faire gagner, tu en profitais pour faire briller des mecs comme Luke Harper sans les faire gagner, par exemple. Et voilà, on entend de la paresse. Bon, écoute, c'est pas fini, parce qu'on a quand même eu droit à une grosse annonce lors de cet épisode, et cette grosse annonce, c'est tout simplement que le 4 juillet, jour de fête nationale pour les Américains et pour Giscal, c'est le retour de John Cena. Et oui, John Cena sera de retour. Alors,
il était temps.
Le 4 juillet, évidemment, à SmackDown, ça tombe bien. Bon, écoute, Giscal, est-ce que t'es chaud bouillant, là? T'es chaud.
Putain, mais je suis trop content, quoi. C'était la meilleure news de cette émission, clairement de loin, parce qu'il s'est pas passé grand-chose d'autre dans les histoires particulièrement. Donc oui, je suis absolument ravi et j'ai hâte que John Cena arrive du coup. Bah, probablement pour casser la gueule de soit Jinder, soit Randy Orton, peu m'importe, et remporter son titre record. Donc j'ai bien hâte qu'il revienne. Je suis très très content. Non, c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il, pour le moment, j'ai du mal à vraiment trouver que l'émission ait réussi à dégager. Une méga star, parce que pour le moment AJ Styles est malheureusement pour lui un petit peu embourbé dans ce booking mi-fig mi-raisin de Money in the Bank, donc il nous manque une top star en face dans le show qui n'a pas réussi, je trouve, une nouvelle fois. On dit toujours oui, mais John Cena il met l'été noir sur le reste du roster, il éclipse tout le monde quand il est là, on peut pas percer. Hey, mais quand il est pas là, j'ai pas le sentiment non plus qu'il y ait des gars qui prennent sa place, quoi, qui irradient autant qu'il peut irradier le show quand il est là. Donc écoute, voilà.
Je vais dire un truc. Et tu sais, c'est quoi le pire là? C'est que tout, voilà, les smarts qui justement pensent ça de John Cena, à mon avis, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il revienne pour enterrer Jinder Mahal, pour enterrer un petit jeune. Bon, ok, cette fois-ci, tu peux, on accepte. Si c'est pour enterrer Jinder Mahal, tu peux revenir
j'accepte.
Et enterrer un
mais
petit
ce sera
jeune.
Pas facile, hein, parce qu'il a l'air vraiment fort, Jinder Mahal.
Ce serait une belle force de position à John Cena.
Ouais, je pense qu'il faudrait au moins John Cena pour coucher le trio indien.
Bon, écoute, c'est l'heure du mot de la fin. S'il te plaît, ton top, ton flop et ta note, Giscard.
Allez, mon top, c'est sans surprise un triplé pour les Fashion Files, hein, ça fait 3 semaines de suite. Bravo à Tyler Breeze et à Fandango. Meilleur segment de l'émission de loin. J'espère qu'ils auront la liberté créative et les mains libres pendant très longtemps, parce que c'est très fort ce qu'ils arrivent à faire avec ce qui était tout sauf facile comme gimmick à gérer. Et mon flop, je vais le donner à Nakamura. Voilà. Pourquoi pas. Lui aussi, je pense que ça doit faire plusieurs fois. C'est pas moi, c'est celui qui me déçoit le plus émission après émission, parce que j'ai envie de découvrir ce qu'il donne, quoi. Enfin, ce mec, et pour le moment, il me propose rien depuis qu'il est arrivé. Il me propose rien qui me donne envie de m'investir plus dans son personnage. Et c'est pas des peintures cheloues là qui vont changer la donne. Donc voilà, en tant que fan casuel, je sais pas, de la WWE qui ne connaissait pas Nakamura, je peux dire pour le moment que je suis très déçu de son arrivée. Et ben ma note, je vais mettre seulement un 3 sur 5 cette semaine, parce que
c'est pas mal, hein.
Oui, je mets des pouces en l'air pour tout ce qui se passe autour du titre mondial. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le crédit qu'on donne, en tout cas. Et je trouve que c'est plutôt bien fait comme feu de transition. Je mets un pouce aussi pour les filles, quand même. C'est pas mal ce qui se passe pour elles. Pour les équipes aussi, on s'est beaucoup marré. Mais la note baisse beaucoup sur la qualité du catch qu'on a eu cette semaine. Et puis le Money in the Bank masculin qui est un gros merdier, là, mal écrit, je trouve.
Ouais. Bah écoute, hein, on va se rejoindre pas mal. Moi, mon top, je le donnais à Mojo Rawley, parce que j'ai adoré la promo. Le mec, il avait one shot, one opportunity, et il l'a bien saisi, il l'a vraiment bien réalisé. C'était une belle promo, moi qui m'a touché, toi, parce que pour les raisons dont on a déjà
ouais,
parlé.
Oui, ça restait touchant comme promo.
Après, voilà, si je pouvais en mettre deux, je mettrais au Fashion Files. Mais bon. Et mon flop, écoute, je le donne à Naomi, parce que franchement, elle a fait une prestation indigne d'une championne.
J'ai peur qu'elle ne le reste pas longtemps.
Hein, ouais, pour moi, elle n'a jamais vraiment réussi à valider cette ceinture, ce statut de championne qu'on lui avait donné. Et c'était une mauvaise idée, voilà. Et clairement, elle est pas prête pour ça. Elle le sera jamais. Boum. Et ma note, c'est 2,25. C'était un show vraiment pas superbe, qui était, une fois de plus, hein, on a du très bon et du pas terrible, quoi, voire du très mauvais. Voilà, même les filles, là, tu parles des filles, mais c'est le Money in the Bank qui est cool, toi, l'annonce Money in the Bank. Mais là, ce qui s'est passé, bon, le retour de Lana était plutôt.
Ah,
plutôt
si,
cool,
il y a
toi,
le retour
mais,
de Lana, il y a la mallette.
Oui, oui,
la
mallette, ouais.
On garde des bons souvenirs, quoi.
Ouais, bon, bah, 0,25 points pour le design de la mallette. Donc, on monte à 2,5. Allez. Bon. On s'approche, hein, bientôt le Money in the Bank, hein, c'est 2 semaines je crois,
oui.
Donc il ne reste plus qu'un épisode.
En fait c'est déjà le go home la semaine prochaine, ouais. Le temps de filer encore quelques défaites à quelques participants du Money in the Bank, et ça devrait être bon.
le supplément SmackDown de Catch-Up, c'est évidemment toutes les semaines, hein, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud et iTunes pour la version audio, sur YouTube pour la version vidéo. Twitter et Facebook, c'est Catch-Up CDC, les cahiers du catch.com, hein, pour les chroniques, la plume affûtée de nos chroniqueurs. Commentez, partagez, notez et poussez les épisodes. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce SmackDown dans les commentaires, là, juste en dessous de la vidéo sur YouTube. C'est fait pour ça, vous donnez votre top, votre flop et vous sanctionnez tout ça d'une note. Rendez-vous la semaine prochaine, mon bon Giscal. Même heure, même endroit, à peu près.
Très probablement, oui, même heure, on sait jamais, mais bon, même endroit.
En tout cas, on parlera de SmackDown, ça c'est sûr.
C'est certain.
Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous.
Allez, ciao tout le monde. Je suis pas en trop gros.